Et on s'en va en Gaspésie pour la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Alors, je suis contente, vous allez nous faire voyager aujourd'hui grâce au livre de Catherine Mavrikakis intitulé « Sur les routes, un étrange voyage de Chicago à Alamogordo » qui est au Nouveau-Mexique.
Oui, aux éditions Héliotrope, un petit livre de 120 pages. Peut-être que vous connaissez Catherine Mavrikakis parce qu'elle a publié quand même beaucoup de romans puis elle s'est mérité beaucoup de prix. Moi, je l'ai connue à travers le ciel de Bay City qui était finaliste au prix des collégiens puis qui finalement a gagné en 2009.
Est-ce que c'est son premier roman?
Non, je crois pas, mais elle avait fait aussi un autre qui avait le titre Alibaba dans le titre, qui a été aussi finaliste au prix des collégiens. Donc, ça m'a amené ce fameux prix que j'aime beaucoup à lire des auteurs contemporains. Et Alamogordo, je me suis demandé qu'est-ce que c'était ça, parce que je connaissais
cette histoire. Alamogordo.
C'est une petite place de rien. Ouais. À côté de la frontière mexicaine. Alors donc, on va comprendre plus tard pourquoi elle a mis ce nom-là dans son voyage.
C'est pas Allo, hein, Marie, c'est Alla.
Alla Mogordo, ouais. C'est ce que j'ai dit, oui. Alla Mogordo, oui. Alors, Catherine Mavrikakis, donc, est essayiste. Elle est née en 61 à Chicago. Sa mère était française, son père était grec. Ensemble, ils étaient mariés, ils se sont séparés depuis. Et puis, elle, sa mère voulait vraiment que sa fille soit américaine. Puis, ils ont quitté finalement l'Europe dans le temps de la Seconde Guerre mondiale. Là. Puis, elle est devenue professeure de littérature, recherche, création, d'abord à Concordia, puis maintenant à l'Université de Montréal. Et puis, sa spécialité, c'est entre autres la littérature nord-américaine et le journal de voyage, le récit de voyage. Donc, on est dans quelque chose qui la passionne au départ. Dans ce cas-ci, il est question, bien sûr, des États-Unis, de la littérature, mais beaucoup, évidemment, de la politique, du racisme, des classes sociales, du féminisme, de l'homosexualité, des arts visuels, des catastrophes écologiques aux États-Unis. Parce qu'elle a écrit ça en juillet 2024. Donc, c'est très récent. Et à ce moment-là, quand elle a commencé à faire prendre la route et faire un voyage à la manière de Kerouac, Cormac, Jack London et autres, ben, elle allait là pour à la fois retrouver le lieu où elle est née et où elle est allée souvent, mais aussi pour sentir le pouls de ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là. À cause de ça, ben, c'est pas juste un roman autobiographique de son séjour, c'est aussi un peu un essai parce qu'il est question de la situation dans certains États, comment ça a évolué, puis qu'est-ce qui sont les problématiques présentes. Et puis, ben, ça nous permet de vivre son périple pendant un été. Alors, ça a été publié en octobre, le 16 octobre 2024, donc c'était vraiment tout chaud quand c'est sorti, et c'était quelques semaines avant les élections de M. Trump. Donc, le lire aujourd'hui, ça donne vraiment, comment je dirais ça, un éclairage sur ce qui se mijotait au moment où est-ce qu'elle a traversé les États-Unis d'est en ouest et de nord au sud. Donc, comment c'est né ce livre? C'est que elle était en train de préparer ses cours pour l'automne, donc 2024. Et puis là, elle a eu l'idée qu'elle devrait peut-être partir pour vrai cette fois-ci, faire les routes, sillonner les États-Unis, parce que quand elle allait aux États-Unis, elle prenait l'avion, elle arrêtait à Chicago, puis elle allait voir les gens qu'elle voulait voir, mais elle ne sillonnait pas la route dans le sens road trip. Mais quand elle était enfant, elle en rêvait, parce que chaque année, au 1er janvier, son père lui promettait cet été, on va aller aux États-Unis ensemble. Alors, elle se mettait à lire sur ça, à s'informer pendant des années, jusqu'à temps qu'elle comprenne que son père, ben, il ne l'amènerait jamais faire ce qu'appelait, lui, le grand périple de l'immigrant intégré.
C'était plus un rêve.
Oui, elle s'est dit, si lui, il ne le fait pas, ben, au fond, je vais le faire. Et elle dit, je la cite, « Grâce aux mensonges de mon père, je suis devenue un peu savante. Mon esprit et ma bibliothèque ne cessaient de s'agrandir de mes trouvailles. Aussi, je me suis résignée petit à petit à échafauder seule ou avec les livres mes voyages imaginaires. » Donc, elle l'a compensé par tout ce qu'elle a imaginé. Mais là, elle était très jeune. Puis ce qu'elle raconte, c'est que le voyage qu'elle va faire, c'est pas celui que son père lui promettait, parce que depuis, les États-Unis ont bien changé et elle aussi. Donc, ce roman-là, j'ai trouvé ça très intéressant. J'appelle ça un roman, mais je devrais dire un essai. C'est quelque chose qui est court, qui est très efficace, qui est divisé en 8 chapitres. Et puis là, ben, c'est tout. On a une carte des États-Unis où on dessine les États, et un fil, un trait, nous montre le parcours qu'elle a fait aux États-Unis.
Ah, on pourrait faire le même?
Oui, donc on la suit à mesure que les chapitres avancent, et on est quelques mois avant l'élection, là. Et puis là, on sent vraiment la tension entre les démocrates et les républicains, surtout qu'à un moment donné, dans un café, puis c'est le jour où on a tenté d'assassiner Donald Trump. Puis à un moment donné, elle nous dit que dans un café au Wyoming, il y a une serveuse qui trouve qu'elle a un accent qui ressemble à celui de Melania Trump, qui est slovène. Puis elle dit que pour la serveuse, tous les étrangers ont le même accent. Puis quand elle lui dit qu'elle vient du Canada, elle se demande de qu'est-ce qu'elle fait là au Canada, pourquoi vous n'êtes pas ici. Elle lui dit qu'elle a un emploi pour faire court, hein, mais cette femme-là ne peut imaginer qu'elle ne soit pas restée aux États-Unis. Puis elle dit que dans le même café, autour de moi, je la cite, une mère de cheveux blancs ou gris, de nombreuses casquettes rouges, avec pour inscription « Make America Great Again ».
Bien oui.
Puis elle va dire plus loin que cet État-là, le Wyoming, a voté à 80% pour Trump aux élections précédentes, pas celles du mois de novembre. Donc, c'était un comté gagné d'avance. Et puis elle va faire le tour des librairies, des musées, puis elle nous raconte ce qu'elle voit, les auteurs sont cités, et quelques femmes parmi les autrices qu'elle cite, parce que finalement, il y a pas beaucoup de femmes qui ont publié sur le sujet. Elle va nommer une autrice que je découvre, là, Votérine de Claire, d'Espoir et de raison, écrit d'une insoumise. Ça a été traduit par Normand Baillargeon et Chantal Santerre, publié chez Lux en 2008. Ben, c'est intéressant, ça nous donne le goût aussi d'aller lire les œuvres qu'elle cite. Elle parle aussi des chansons qu'elle écoute dans la voiture pour lui donner du courage, de l'espoir dans sa traversée, entre autres Lady Gaga qui chante « Born This Way » pour finalement défendre les homosexuels, les gens différents, les marginaux. Puis elle, au cours de son séjour, à un moment donné, elle nous parle du Michigan, donc celui de Bécité, dont il est beaucoup question dans son œuvre littéraire où elle cite beaucoup c'est des fictions, mais autour de son enfance. Alors elle dit, je la cite, « Ainsi, en moi, de nos jours, se côtoient deux Michigan, celui de Bécité et de ma jeunesse, contre lequel j'ai fait ma vie, et puis l'autre Michigan, bien vivant, bien multiple, celui d'Ann Arbor, où j'ai rencontré Martine Delvaux, alors étudiante, et qui m'avait séduite par son intelligence et sa force. Je voudrais que désormais, à partir de Kamala, on puisse penser à une lignée de femmes présidentes, enfin. » Alors ça, c'est un vœu qu'elle a fait, mais qui effectivement, on sait ce qui est arrivé avec la suite des choses. Mais pour elle, elle priait pour que Kamala Harris soit élue, évidemment.
Elle n'était pas la seule.
Non, c'est ça. Outre la politique, il est aussi question des gens qu'elle rencontre, qui ont vécu là. Et puis à mesure qu'elle voyage, il y a des souvenirs qui surgissent et qu'elle nous raconte, bien sûr, avec intérêt. C'est intéressant de la lire dans sa grande réflexion comme spécialiste de la littérature nord-américaine, mais aussi comme une fille qui est allée souvent là, et de la lire maintenant qu'on sait que M. Trump est au pouvoir avec la suite des choses. Puis pour terminer, moi j'ai été voir un peu, elle nous raconte un peu aussi ce qu'il y a autour de Alamogordo, qui est à quelques kilomètres de Los Alamos, devenu pendant la Deuxième Guerre mondiale le laboratoire du projet Manhattan. C'est là où Oppenheimer, avec son équipe, ont fait la bombe atomique qui va finalement détruire Hiroshima le 6 août 1945 et après celle de Nagasaki. Puis c'est devenu un dépotoir de jeux vidéo. C'est épouvantable.
Ah, en tout cas,
Quand on lit ça, là, ça ne nous donne pas une belle image des États-Unis, je dois avouer. Là, ça ne me donne pas vraiment le goût de les voir, les puits de pétrole à perpétuité, les casquettes rouges, le racisme ambiant, la difficulté pour les femmes.
Mais est-ce qu'elle a fait ce voyage-là dans un... C'est-à-dire que quand elle revient du voyage, est-ce qu'on sent qu'elle elle vit de la déception?
Non, parce qu'elle le publie en octobre.
OK. Non, mais dans sa description des paysages,
Oui, c'est sûr que, oui, quand elle dit que ce n'est pas les États-Unis de son enfance qu'elle avait imaginé en lisant, puis que son père lui promettait d'aller voir, c'est sûr que ça ne la réjouit pas de voir ces choses-là, mais elle savait un peu en même temps. Comme elle se doute aussi que, M. Trump allait être au pouvoir, même s'il rêvait d'autres choses, il y a de l'espoir, mais elle voit bien la situation, puis il y a des choses devant lesquelles elle s'insurge, évidemment. Et il y a des références à la littérature, aux arts visuels qui dépeignent la situation globale des États-Unis. C'est très intéressant. Elle commence par aller au musée à Chicago, un musée d'art contemporain, puis elle nous parle d'une toile qui va être comme une métaphore de finalement ce qu'elle veut nous démontrer dans ce livre-là. Alors, c'est pas juste une description géographique des lieux, c'est très intime et personnel de ce qu'elle connaît.
Mm-hmm. Et puis aussi des rencontres avec des oui. gens, là, des personnes. Est-ce qu'ils sont toutes pareilles, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont tous pro-Trump ou non?
Hélas, ils sont nombreux. Et puis, elle rencontre pas tant de gens parce que sur la route, elle est prudente. Il y a des endroits où il y a des barrières pour pouvoir accéder à cet état-là. On sent que c'est pas facile de voyager partout aux États-Unis pour une femme en auto comme ça, que ça prend du courage. Puis même si elle connaît très bien les États-Unis, ça reste que c'est violent, ce pays-là. Il faut être prudent. Mais elle fait beaucoup référence à des textes, à des chansons, alors finalement, la littérature, à sa grande connaissance. Et ça nous donne vraiment envie d'aller en connaître davantage. Et puis, bon, ben, c'est sûr que tout ce qu'elle décrit nous fait comprendre qu'il y a du travail à faire et que, enfin, moi, je trouve que le livre présentement, c'est intéressant parce qu'on sait que là, maintenant, Trump est au pouvoir et on voit un petit peu qu'est-ce qui nous attend.
Ouais. Alors, même si ça se passe aux États-Unis, on le boycotte pas.
Non, on ne le boycotte pas parce que c'est un livre québécois écrit par une Québécoise.
Oui, une Québécoise d'origine américaine, mais qui vit au Québec.
Elle a la double nationalité.
Oui. Alors, Catherine Mavrikakis, donc, qui nous propose Sur les routes, un étrange voyage de Chicago à Alamogordo. Un étrange voyage. Alors, déjà, le titre nous intrigue. Et je pense que vous avez apprécié, Anne-Marie?
Oui, quand même, oui.
Publié aux éditions Héliotrope. Merci beaucoup.
Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.